Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech ce soir, bien sûr, de 20h à 21h, avec Raphaël Grabli qui est avec nous.
Salut François.
Salut Raphaël, qui est rédacteur en chef adjoint de la plateforme Tech & Co. Tiens, à ce sujet, sachez que depuis aujourd'hui, une nouvelle verticale est apparue dans l'univers de BFM Business et de Tech & Co. Il s'agit de BFM IA. Juste un mot hein, sur cette plateforme qui regroupe en fait toute l'actualité de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non. Voilà, c'est une vraie révolution qui méritait en fait d'avoir sa propre thématique dans l'univers BFM Business
surtout,
et Tech & Co.
Avec le lancement de BFM IA, on a regardé un peu ce qu'on produisait en contenu IA.
Et on en produit beaucoup.
Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, de fait, on en produit quand même énormément. Il y a tellement de choses à raconter. Donc voilà, c'est actif depuis quelques heures.
Exactement.
Sur le site de Tech & Co.
Voilà, vous tapez BFM IA, vous trouverez tout ça. Évidemment, avec beaucoup de contenu écrit, mais il y aura petit à petit, ça va évidemment s'enrichir avec des podcasts, des vidéos, de l'audio, etc., etc. À tes côtés, Raphaël, puisqu'on parle de podcast, c'est Jérôme Colombin qui est là. Salut.
Salut François.
Mister Podcast. On peut l'appeler comme ça. Hein. Vous le retrouvez dans Monde Numérique. Mon camarade Jérôme qui, évidemment, toutes les semaines vous propose son podcast avec évidemment plein de bonus tout au long de la semaine que vous pouvez retrouver en audio et en vidéo. Et Jérôme Marin est avec nous aussi. Salut Jérôme.
Salut.
Fondateur de la newsletter Café Tech. Tout va bien, Jérôme ?
Tout va bien, merci.
On a deux Jérôme ce soir.
Exactement, ouais. On va devoir jongler un peu. Là.
Et quel va être
et deux pure players.
Qui va être le meilleur Jérôme ? Hein, c'est ça ?
On a moins de pression.
J'aurais dû mettre ça en titre. Qui va être le meilleur Jérôme ? C'était sympa quand même. Non, plus sérieusement, on va évoquer ensemble DMA parce que j'aimerais avoir le point de vue de vous trois. On en parle évidemment tout au long de la semaine et c'est intéressant d'avoir des points de vue de tous nos chroniqueurs, de tous nos débriefeurs tout au long de ces derniers jours. Mais on va commencer par le règlement européen qui, vous le savez, ambitionne de mieux réguler les GAFAM avec donc cette disposition du DMA qui entre en vigueur aujourd'hui. Et vous le savez, chaque soir, on fait un focus sur l'un des géants de la tech et comprendre ce qui change concrètement pour eux. Nathan Cocampo nous rejoint sur ce plateau, comme chaque soir. C'est notre Mister DMA, en quelque sorte. Hein. Bonsoir Nathan, bonsoir. Merci d'être là. Et après Google et Apple, ce soir, on s'intéresse, je le disais, au géant Meta, les dispositions donc du DMA pour Meta.
Oui François, le plus gros changement, c'est sans aucun doute l'interopérabilité des messageries du groupe WhatsApp, Messenger. Dans quelques heures, quelques jours peut-être, il sera possible de les utiliser pour envoyer des messages sur d'autres services de messagerie. J'entends par là qu'on va pouvoir écrire un message sur WhatsApp et l'envoyer à quelqu'un sur Signal ou Telegram. Une petite révolution. Apple, de son côté, a réussi à échapper à un tel changement et préserve sa messagerie e-message. On va attendre de voir ce que ça va rendre dans les faits. Vraisemblablement, il y aura une autre page, un autre onglet sur WhatsApp et Messenger, d'où il sera possible d'envoyer ce message à une messagerie extérieure avec une option à valider pour l'utilisateur. Les services devraient rester toutefois assez limités, pas d'appels vocaux ou de conversations de groupe pour le moment, mais on pourra envoyer des vidéos, des photos, des sons. Et quid de la sécurité de la messagerie? Une des grandes force de WhatsApp, vous le savez, c'est sa sécurité, une messagerie cryptée. Nous verrons donc quels sont les protocoles de chiffrement mis en place. En tout cas, les autres messageries devront signer un partenariat avec Meta qui n'autorisera que des messageries ayant le bon niveau de sécurité comme Signal. Autre changement de taille, le contrôle de données. Désormais, il faudra autoriser le partage de data entre notre compte Instagram et Facebook et on va pouvoir utiliser Messenger sans forcément avoir besoin de se connecter avec son compte Facebook. Même chose pour se rendre sur la marketplace de Facebook ou encore Facebook Gaming. On va pouvoir y accéder sans obligation donc d'avoir un compte Facebook.
Merci beaucoup Nathan pour toutes ces précisions. Voilà l'impact du DMA pour Meta. C'est quand même du lourd, hein, tout ce qu'on vit actuellement. Je le disais hier et je le disais aussi avant-hier, c'est une vraie révolution numérique que l'Europe est en train de mettre en place. Alors il y a des bons côtés, il y a des côté un petit peu plus compliqué parce que on se rend compte que certaines dispositions peuvent avoir un peu des coups de billard à trois bandes hein, et des conséquences qu'on n'avait pas imaginées. Je ne sais pas si vous avez vu le business des hôteliers notamment qui se retrouvent complètement chamboulés du fait que le DMA a impacté les recherches Google.
Et oui, bah oui. Il faut mettre les concurrents de Google à la recherche, à la proposition d'hôtels, de restaurants.
Et c'est etc. les comparateurs qui prennent le relais.
Les comparateurs arrivent donc au niveau de la concurrence c'est bien. Sauf que les hôteliers sont aussi des concurrents de Google, puisque quand vous faites une recherche pour un hôtel, un restaurant, il y a soit réservé par Google, soit vous allez sur le site de l'hôtelier, soit vous appelez, etc. Mais finalement, Google est un peu une forme de concurrence. Et donc, il y a les concurrents de Google avec, disons, les comparateurs. Et puis, les hôteliers, en fait, sont un peu plus bas qu'avant. Donc, alors, il y a aussi le cas Google Maps qui est intéressant.
Oui, on en a parlé hier.
C'est ça.
Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez essayé les deux Jérômes.
Ouais.
C'est étonnant quand même. Hein. On va en parler avec Raph aussi, mais voilà, on n'a plus accès à Google Maps quand on vous tape une adresse. Vous avez cette petite capture d'écran.
C'est un peu flou d'ailleurs. Parfois, quand c'est un itinéraire, on peut y accéder sur mobile, sur ordinateur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu flou le fonctionnement. Mais enfin, bien souvent, on arrive sur une image fixe. On ne peut pas cliquer, on ne peut plus sortir de Google, il faut ouvrir manuellement Google Maps.
Oui,
c'est tout le paradoxe de ce DMA, en fait. C'est-à-dire que pour plus de concurrence, on a moins de fluidité.
Et moins de praticité sur certains. Enfin, en tout cas, ça casse les habitudes qu'on avait.
Quand je dis fluidité, c'est ça. C'est un peu. Et ce qui est l'essence de la tech. L'essence du numérique, c'est ça. C'est de tout fluidifier, que tout soit plus simple. Toutes les startups qui se créent, c'est pour résoudre des problèmes, des frictions, etc. Et là, on remet de la friction. Donc, c'est un peu dommage. Et alors, in fine, on va dire que ça va être nous, les utilisateurs, qui seront les bénéficiaires de ça. À court terme, on espère que ce sera les entreprises. Mais à court terme, pour les utilisateurs, il y a beaucoup de choses qui sont assez déplaisantes, quoi.
Mais quand on protège la concurrence, en fait, c'est vrai qu'on protège aussi le consommateur. Et le problème, c'est que pour moi, Google Maps, c'est l'exemple typique où on protège le consommateur, mais on emmerde l'utilisateur.
C'est ça.
C'est-à-dire que pour des raisons purement légales et de principe, mais de principe qui ont évidemment des raisons, voilà. Mais on va nuire à cette fluidité. Et pour moi, c'est un bon exemple. Un autre exemple, c'est Apple Pay, le NFC qui s'ouvre aux autres banques. Alors, on a eu une association européenne des banques qui a dit peut-être que du coup...
On va arrêter Apple Pay. On
pourrait arrêter Apple Pay.
Alors, en tout cas, arrêter le wallet d'Apple Pay.
Le wallet, alors après, c'est quand même des négociations commerciales de gré à gré, notamment aussi entre les banques et Apple. Mais c'est vrai qu'au final, c'est bien si on a plus de concurrence. Mais pour l'utilisateur, si sa banque sort d'Apple Pay, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être jongler, switcher entre les deux. S'il y en a qui sont... on peut avoir tous plusieurs banques, parfois avec des néobanques. Et donc, in fine, dans l'utilisation, ça risque d'être un peu plus complexe. Et donc, moi, la grande question que je me pose, c'est ce DMA, comment il va être adopté par l'utilisateur qu'on est. Est-ce qu'on va l'appréhender d'une façon positive? On va dire plutôt, ça c'est intéressant, on peut avoir des évolutions favorables. Ou est-ce qu'au contraire, ça va irriter
Plus des messages, excuse-moi, je te coupe, avec des messages assez subtils d'ailleurs de ces géants américains, on voit qu'Apple, il va évidemment à reculons et communique de manière très négative.
Alors ça c'est en plus,
C'est-à-dire que si on est un peu naïf et dupe, et qu'on commence à lire un petit peu tous les textes d'Apple qui expliquent ce qui va se passer, ça fait flipper. Oui, si vous téléchargez des applications sur un autre App Store, vous risquez de perdre en sécurité. Enfin, il y a aussi cette petite musique de la psychose.
Ils sont vraiment sur la défensive.
Ils sont vraiment sur la défensive.
On va en parler notamment avec Epic Games.
Alors, on va regarder sous le pied d'Apple, parce que évidemment, on va en parler beaucoup. Jérôme, sur tout ce qu'on a évoqué là.
Non, mais après, alors oui, il peut y avoir des frictions sur des choses. Après, il y a d'autres choses qui vont apporter. Par exemple, quand on va être sur son navigateur, on va pouvoir choisir ses applications par défaut sur un iPhone.
Oui.
Logiquement. Donc ça, c'est le
parfait exemple du mauvais exemple. Excuse-moi, mais bien sûr, c'est
les deux Jérômes ne sont pas contents.
C'est l'histoire. C'est l'histoire que nous, les vieux, on a connue du ballot screen sur Windows. Tu te souviens?
Oui.
Il fallait choisir son navigateur. Ok,
ouais.
Super. On choisit son navigateur. Explique-moi comment ma mère va choisir parmi 12 navigateurs alors qu'elle sait même pas le nom de celui qu'elle utilise
après,
aujourd'hui.
Après, elle va choisir. Je sais pas comment
elle
ça
va. Elle va choisir
au pif. Elle va choisir le premier qui sera Safari. Mais si je veux.
Alors tu sais.
Non.
Excuse-moi.
Ça s'affiche dans un ordre aléatoire.
Et moi, on me l'a demandé parce que j'ai fait la mise à jour
hier.
Je ne sais pas si vous avez fait la 17.4.
Et
tu lances le navigateur Safari. Et après cette mise à jour, tu as une espèce de disclaimer qui apparaît où on te dit quel navigateur voulez-vous choisir.
Il y a 12 navigateurs. Il y en a 10 que tu ne connais pas.
Il y a Qwant en premier. Moi, sur la première ligne, j'avais Qwant.
C'est un ordre aléatoire.
Ah, c'est un ordre aléatoire.
Ouais, ça change à chaque fois.
Mais donc, c'est vrai que, et là où je rejoins Jérôme, c'est que nous, on est des geek, on va dire. On sait comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que je pense que monsieur et madame tout le monde ne savent pas forcément que le navigateur, c'est Safari ou Chrome. Et ils vont peut-être dégrader leur expérience utilisateur s'ils choisissent le mauvais navigateur.
Déjà, ils comprennent,
tu vois,
pas pourquoi on leur demande.
Enfin, je sais pas.
Déjà, ils comprennent même pas pourquoi on leur demande.
Oui, il y a ça.
Quand oui, mais après, des gens...
ça existe sur Android aujourd'y. Aujourd'hui, quand tu as un
téléphone Android, non, mais tu dois choisir. Il y passe au DMA, enfin, il y passe à la réglementation.
C'est des. Peut-être qu'au départ, les gens vont se demander ce que c'est, mais après, c'est juste des habitudes à prendre, en fait. Et donc, si madame tout le monde ne connaît pas quel navigateur elle va choisir, elle va demander à son enfant.
Je pense, Jérôme, que ça nécessite une pédagogie supplémentaire que pour l'instant, personne ne fait.
Parce qu'ils ne veulent pas la faire aussi.
Non, effectivement.
Mais est-ce que ça serait pas, je sais pas moi, la Commission européenne de la faire, la pédagogie, à ce moment-là?
T'es obligé d'être sur l'écran de l'utilisateur pour le faire.
Oui, mais il pourrait dire...
C'est Apple, Google qui ont la main, et Microsoft.
Oui, mais regarde bien, aujourd'hui, c'est plutôt les Américains, en tout cas, ces grands groupes américains qui communiquent, et peu, finalement, la Commission européenne.
Qui a la main, c'est toi, quand tu as tes navigateurs qui s'affichent, il y a un message qui va s'afficher pour expliquer le contexte. Pourquoi? Et comme quand Facebook te demande de croiser tes données avec Instagram depuis quelques jours, ils expliquent.
Non, mais
c'est eux qui ont la main, c'est eux qui décident de... eux qui pourraient expliquer.
Oui, mais tu n'es jamais conscient des enjeux. Typiquement, cette histoire de donner son accord, est-ce que tu veux bien partager tes données? Mais qui est capable de mesurer les enjeux
C'est comme pour le RGPD. C'est comme pour le RGPD.
Demande à 100 personnes dans la rue, c'est quoi le RGPD? Nous, on va dire, c'est la protection des données.
C'est le truc qui nous enquiquine. On est obligé de cliquer sur OK.
C'est le truc emmerdant. On est obligé de cliquer sur OK avec les 12 fenêtres de cookies. Mais pour les gens, c'est pour beaucoup de gens, c'est ça le RGPD.
Mais tu sais, cet après-midi, je discutais avec notre ami commun Bruno Guglielminetti à Montréal.
On salue. Je sais qui nous écoute et qui nous regarde.
Voilà, et qui n'est plus dans le même internet que nous, parce que ça, c'est une réalité aussi. C'est que nous, notre internet, il va plus ressembler à l'internet des autres. Et il me dit, moi, j'utilise souvent un VPN pour me faire passer pour un Français, pour aller sur le web français.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, je vois des consentements, des demandes de consentement partout. Et il est bien content ensuite de revenir sur son internet québécois.
Mais est-ce que, après Jérôme, évidemment, je te donne la parole, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'il y ait, on va dire, une belle campagne de communication de la part de la Commission européenne, se payer un 30 secondes à la télé, à la radio, après, pour expliquer, pas... voilà, le DMA arrive.
Et tu peux comment, pas expliquer comment, ça en 30 secondes.
Qu'est-ce que tu dis en 30 secondes?
Tu peux décliner des différents spots avec, par exemple, chez Meta, vous avez un groupe WhatsApp. Et depuis WhatsApp, vous allez pouvoir partager d'autres messageries. Vous avez un iPhone, et bien dorénavant, vous avez la liberté de télécharger d'autres applications depuis des stores alternatifs. Des choses, ce qu'on fait nous, alors c'est notre métier. Mais je pense que pour toucher un maximum de gens...
Là, tu fais ça maintenant, il n'y en a pas de store alternatif. Tu vois, c'est bizarre.
Informations sur lesquelles ils auraient pu communiquer.
Je veux dire un truc, tu dis aux gens, vous avez Messenger, vous pouvez parler avec les gens de WhatsApp. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et alors?
C'est des habitudes.
Qu'est-ce que ça peut me faire?
Tout à fait.
Et là, on en parlait tout à l'heure, justement, des messagers. Pour le moment, c'est quand même le flou total. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. C'est censé être quasiment disponible. On ne sait pas du tout à quoi ça ressemblait. Moi, je suis assez curieux de voir vraiment qui va utiliser ça. Et peut-être que les gens vont se l'accaparer et peut-être que ce sera fait de façon intelligente. Mais le problème, c'est que est-ce que Meta a intérêt à ce que ça se fasse de façon intelligente, sachant qu'au passage, il y a quand même pour moi une grosse défaite de la Commission européenne, c'est que finalement, les deux messageries concernées, c'est quoi? C'est Messenger et c'est WhatsApp. Ce qui aurait été vraiment nouveau, ce serait qu'il y ait iMessage. Mais vu qu'il n'y a pas iMessage, entre Messenger et WhatsApp...
Il y aura peut-être les autres. Il y aura Telegram, peut-être Signal.
Non, en fait, il n'y a que...
Je trouve ça intéressant, le fait de se dire qu'on peut avoir une messagerie qui agrège, enfin une messagerie générique, donc en l'occurrence WhatsApp...
Encore une fois, ça dépend comment c'est fait.
Qui agrège les autres messages.
Comme le RCS, en fait.
Comme le RCS.
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que le RCS, c'est le nouveau SMS. Oui. C'est un autre protocole de communication. Tu n'as pas besoin d'application pour avoir des SMS. Là, finalement, ça va concentrer toutes tes messageries. Et c'est vrai que Dieu sait qu'on commence à en avoir beaucoup. Hein. Ouais. Telegram, Signal, WhatsApp, Messenger, etc. Dans un seul et même flux. Mais visiblement, ça va pas être aussi facile que ça.
Ça dépendra de Meta. S'ils ont envie d'être de bonne volonté.
Juste sur la commission, en fait, aujourd'hui, le rôle de la commission, c'est pas forcément de communiquer sur le DMA. Le rôle, ça va être d'appliquer le DMA. Donc, on a vu Thierry Breton qui a déjà commencé à montrer un peu. De le faire appliquer.
Ouais.
Et surtout, d'être sûr que si c'est pas bien appliqué, parce qu'en fait, le DMA, c'est juste des principes. Singapour, ils disent pas, il faut faire ça, ça et ça. C'est des principes. Et chaque entreprise fait ce qu'il veut, en fait, pour respecter ces principes. Et on a vu Apple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui a des règles qui sont assez strictes. Et donc, le rôle de la commission, ça va être sûr que les règles qui ont été mises en place par les gros acteurs sont conformes au DMA. Et ça va être vraiment le gros chantier aujourd'hui dans les prochains mois.
Ok.
Mais moi, ouais, je trouve que ça pose finalement le problème des réglementations européennes d'une manière générale. Parce que là, maintenant, on commence à avoir du recul. Le DMA, le DSA, le RGPD, etc. Alors, ça apporte sans doute plein de choses, mais on voit aussi à quel point ça alourdit le truc. Et moi, j'ai un peu l'impression que Thierry Breton, qui voulait à tout prix qu'on sorte du Far West, ok, mais si c'est pour tomber dans l'URSS, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein.
Exagère, quand même.
Ouais.
C'est un peu, ça force loin, un peu le trait volontairement.
Toi, tu veux être repris sur Twitter, en fait. J'ai l'impression. Jérôme, il veut sa petite punchline du jeudi soir.
Non, mais, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de politique. Voilà. Autour de ça, il y a énormément de politique.
C'est beaucoup de réglementaires.
C'est beaucoup de réglementaires.
Non, mais est-ce que c'est pas aussi un signe plutôt global de dire c'est terminé, vous pouvez pas faire ce que vous vouliez? Enfin, ce que vous, voilà. Si. Et que maintenant, même si on met des règles, et que ces règles, on sait qu'elles sont presque illusoires, et qu'il y en a certaines qui vont enquiquiner les autres, les citoyens européens, d'autres qui vont peut-être servir à des choses. On parlait de l'App Store, on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement.
Oui. Peut-être qu'on aura des stores
alternatifs. On peut avoir des bonnes nouvelles. Oui, finalement, peut-être que dans 6 mois, on reviendra, et que cette messagerie unifiée WhatsApp, ça sera une super nouvelle. Oui. Peut-être que,
Il y aura plein de bonnes nouvelles.
De bonnes choses. Mais là, on parle à froid, en fait. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer.
Oui, et puis, il faut prendre le DMA comme un brouillon. Je veux dire, ces réglementations.
C'est un brouillon.
C'est un brouillon. C'est un brouillon bien avancé. Mais,
oui, c'est l'étape 1, on va dire.
C'est l'étape 1.
C'est un cadre.
Voilà, c'est des règles qui sont faites pour évoluer. Et d'ailleurs, qui ne s'appliquent pas toutes en même temps. D'ailleurs, il y a Apple qui a communiqué sur des évolutions à venir pour le DMA. Il parle d'évolutions en 2024, mais enfin aussi en 2025, notamment pour switcher, pour passer d'un iPhone à un Android. Et donc, je veux dire, c'est le début d'un chemin. Après, vers où ça mènera, on ne le sait pas encore précisément. Mais l'idée, moi je trouve que l'idée globale de dire ce n'est pas le Far West, que ce soit par le RGPD, par le DSA, par le DMA, et je trouve que ces trois règlements qui se complètent bien.
On ne peut
pas ne rien faire non plus. Voilà. On ne peut pas ne rien faire. Moi je trouverais ça choquant de ne rien faire, sachant qu'on est en Europe. Je veux dire, tu peux dire à la limite aux Américains, ne rien faire c'est protéger des pépites américaines. Mais nous on est en Europe. Au moins, qu'on avance là-dessus.
Le problème, c'est qu'on est en Europe et on ne peut pas se battre avec les mêmes armes.
Mais au moins qu'on se défende.
Oui.
Voilà, on ne peut pas être offensif, au moins qu'on se défende.
Alors, restons chez Apple parce que c'est très intéressant. On voit que c'est tendu chez Apple en ce moment. On voit que tout ce dont ils ont communiqué, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place avec le DMA, ils le font vraiment à contre-courant, à marche forcée, parce qu'ils sont obligés. Et alors, on peut évoquer pas mal de sujets, hein, l'éventualité d'un App Store alternatif, mais il y a aussi cette actualité qui est toute récente, c'est le fait que Apple a retiré le compte développeur d'Epic Games, qui voulait, parce que justement le DMA est en place, maintenant lancer enfin son Fortnite, qui n'est plus sur iPhone depuis 3 ans, ouais. Et ils ont dit, ça y est, là maintenant on a notre compte développeur, on va pouvoir créer notre petit App Store alternatif et lancer Fortnite. Eh bien vous savez quoi, et vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, Apple a carrément supprimé ce compte développeur qui est le point de départ pour n'importe quel développeur, c'est la porte d'entrée, le pass pour pouvoir, même avec le DMA, créer son store alternatif.
Oui, il l'avait supprimé en 2020, en août 2020, je crois.
C'est ça.
Parce qu'Epic Games avait décidé de proposer un moyen de paiement alternatif dans l'application Fortnite, ce qui est interdit par les règles d'Apple, par le contrat. Donc Apple a dit, on va dire que c'est objectivement, c'est Epic Games qui a ouvert les hostilités, puisqu'ils ont fait quelque chose, ils savaient que c'était interdit par le contrat, donc ils savaient très bien ce qui allait se passer derrière. Donc évidemment, le compte développeur d'Epic Games a été supprimé donc en août 2020, donc ça fait 3 ans et demi.
Bah, c'était au début de la polémique.
Exactement. Voilà. Là, avec le DMA, Apple a voulu montrer un signe d'ouverture aussi.
C'est pas ce qu'ils disent. Hein.
Alors,
eux, ils disent qu'en fait, c'est la filiale suédoise d'Epic Games qui a demandé un compte développeur, qu'il a été accepté, mais pas qu'il a été accepté comme ça, comme n'importe quel autre compte développeur.
Oui, alors ils sont rentrés par la fenêtre, quoi.
Voilà, et que Apple dit, quand le management a pris connaissance qu'Epic avait créé son compte développeur, on a dit c'est pas possible.
Oui, t'as raison, c'est vrai que ça a évolué. Au début, on s'est dit, ils ouvrent la porte, et puis finalement, on s'est dit, non, en fait, ils n'avaient peut-être pas vu J'en sais rien. C'est peut-être un mélange des deux aussi. Et donc là, non, Epic Games.
Tu vas pas me dire que Apple ne voit pas qu'un compte Epic Games, le développeur, est ouvert. Même en Suède.
J'ai un peu du mal à le croire.
Ou alors, c'est qu'il y a vraiment des trous dans la raquette.
Non, et surtout qu'il le système de surveillance. Le compte a été créé en février. Donc ça fait quand même un mois, et comme par hasard, ça tombe la veille de l'application du DMA.
Donc à nouveau, ils l'ont supprimé à nouveau ce compte-là.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que le patron d'Epic Games dit que, alors évidemment il est fou de rage, il dit que c'est une vengeance d'Apple, parce qu'on a dénoncé les pratiques déloyales et illégales, et que finalement, si Apple est enquiquiné, c'est un peu à cause de nous. Ou grâce à nous. Et donc, ils se disent, bah voilà, ils veulent nous se venger et nous enlèvent ce compte développeur.
Je pense que c'est la seule façon de l'expliquer, ça, en fait. C'est de la vengeance, c'est de la rancœur.
Mais c'est puéril, on est d'accord.
Mais c'est puéril, mais si. Enfin, il y a quand même deux procès. Epic a mis Apple. Tim Cook a témoigné deux fois devant la justice américaine. Deux fois, il a dû faire face à des avocats. On a des informations confidentielles d'Apple qui sont sorties à cause de ces procès. Donc, il y a une vraie rancœur de la part d'Apple. Et ça ne fait pas sens, en fait, de supprimer le compte d'Epic parce que. À part du côté vengeance, hein, parce que tu donnes des arguments supplémentaires à tous ceux qui disent qu'Apple veut pas respecter le DMA. Et Thierry Breton a dit la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de s'assurer que de se saisir du dossier Apple Epic.
Il a tweeté.
Et donc on donne des armes en fait. Et donc pour moi c'est juste de la vengeance. Voilà, vous nous avez embêtés pendant 4 ans, et ben voilà, nous on va faire la même chose.
Alors Thierry Breton, bien évidemment, on n'a pas tardé de réagir.
Là il y a une demi-heure.
Il y a un tweet. Alors il dit ceci: sous le DMA, il n'y a pas de place pour les menaces des gardiens. De faire taire les développeurs. Enfin, les gardiens, c'est les gatekeepers, donc. Ouais, j'ai demandé à nos services d'examiner en priorité la résiliation par Apple du compte développeur d'Epic. Voilà, c'est le moment de vous exprimer pour tous les comptes développeurs sur les solutions de conformité des contrôleurs d'accès. En gros, ça veut dire, dès que vous avez un souci, dès que ça coince, dites-le nous.
Ouais, enfin, ça veut dire qu'on est rentré en politique, là. Parce que là, ça veut dire.
Ouais, mais il est dans son rôle, Thierry Breton, là. Enfin,
il n'est pas dans son rôle. Là, il désigne Apple.
Bah, il désigne.
Là, il dit je suis du côté des développeurs, je suis contre Apple.
Donc, on va étudier le dossier. Dit
Non, la formulation. Attends, quand on lit, franchement, que ceux qui nous écoutent ou nous regardent lisent ce tweet, je pense que tout le monde sera d'accord.
Il dit sous le DMA, il n'y a pas de place pour les menaces des gatekeepers de faire taire les développeurs. Donc c'est vrai que c'est quand même
la démarche d'Apple.
On dirait qu'Epic Games, c'est Edward Snowden.
Ça doit être hyper tendu entre Thierry Breton et.
Mais justement, et pourquoi?
Je ne sais pas comment ils discutent.
Mais parce que pour moi, ça s'explique aussi par le fait qu'Apple traîne autant des pieds. Et tu sais, quand on avait annoncé l'App Store alternatif, avec la fameuse condition de renoncer à l'App Store classique et puis de verser pour les très grosses entreprises, enfin beaucoup.
Au bout d'un million de téléchargements, voilà, 50 centimes.
50 centimes par utilisateur par an.
Ce qui est complètement dissuasif.
Ce qui est complètement dissuasif.
Et ça tue
Mais c'est ce qu'on s'était dit le soir même où il l'avait annoncé. Je t'avais dit, j'arrive pas à y croire. J'allais dire ça, voilà, ils ouvrent les hostilités et c'est une déclaration de guerre. Et pour moi, c'est 50 centimes par an par utilisateur, c'est un petit doigt d'honneur quand même au DMA. Voilà. Et je pense que ce jour-là, Thierry Breton a dit Apple, entre guillemets, je vais me les faire. En fait, par contre, le côté vengeance, bon, j'imagine que ça passe quand même certaines strates de juridique. J'ai du mal à croire que chez Apple, vu l'enjeu.
Non, mais après, regarde, les règles qu'ils ont fait là dont tu parles, c'est pareil. En fait, ils testent les limites du DMA. Je pense qu'ils testent les limites. On va voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce que les 50 centimes, c'est accepté ou pas? Est-ce que supprimer le compte d'Epic, c'est accepté ou pas? Ils testent les limites du DMA et ils testent la Commission européenne. Est-ce que la Commission européenne va vraiment sévir? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Ça vient de rentrer en vigueur. Il y a un petit indice. Apple vient de prendre quasiment 2 milliards d'euros d'amende à cause de ce qui s'est passé avec Spotify. Donc, il y a quand même un indice que la Commission européenne commence à s'intéresser de près à ce qui se passe chez Apple. Apple, aux États-Unis, par exemple, Apple, il n'y a pas eu encore de procédure antitrust contre Apple. Il y en a eu contre Facebook. Il y en a eu contre Google, il y en a eu contre Microsoft, il n'y en a pas eu contre Apple encore. Donc il y a peut-être un sentiment aussi d'impunité, de dire on est tellement gros.
C'est ça.
Peut-être que
Apple
est en train de devenir le méchant.
Le vilain petit canard.
L'USB-C, ça aussi. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi. Thierry Breton, l'Union Européenne, veut se dire on va faire flancher Apple. Bon, Apple résiste. Et là, je pense qu'on est rentré dans une autre phase. Avec l'USB-C, ça commençait un peu à titiller. Avec l'histoire du DMA,
encore l'USB-C, moi je pense qu'Apple il serait allé de toute façon.
Mais ils y seraient allés,
parce que tu vois là, c'est carrément une décision mondiale, hein, l'USB-C. Hein,
en fait l'USB-C, ils étaient obligés pour l'iPhone 16 ou 17, ils sont allés avant.
Oui, ils sont allés avant.
Symboliquement, l'UE dit on a fait plier Apple, ils ont sûrement rien fait plier du tout.
Non, ils ont peut-être accéléré le calendrier, mais
donc,
c'est tout.
Mais on entre, je trouve, dans une phase là d'affrontement entre la Commission européenne et Apple.
Il y a juste à voir les communiqués d'Apple, t'en parlais tout à l'heure. Généralement, quand il y a une amende, par exemple, le communiqué c'est on accepte, on n'est pas d'accord avec les conclusions, on va faire appel. Là, le communiqué d'Apple était très très agressif.
Ouais, très offensif.
Il signe une collusion entre Apple et Spotify, entre la Commission européenne et Spotify. Sur le DMA, c'est pareil. Ils ont commencé leur communiqué sur le DMA en disant c'est une catastrophe, ça va mettre en péril la sécurité d'utilisateurs. Donc ils sont vraiment un ton très agressif que n'ont pas les autres géants américains, qui sont beaucoup plus dans la collaboration.
Non, c'est incroyable. Je trouve que quand on regarde ça avec du recul, on a vraiment l'impression, encore une fois, de revivre des choses qu'on a connues. C'est l'histoire de Microsoft dans les années 90. Et c'est vrai que pour Apple, je pense que ce qui leur tombe sur le coin de la figure, c'est un vrai choc culturel. C'est une entrave. Enfin, c'est un accro. Ça s'attaque à leur fierté.
Et puis, ils n'ont jamais vécu ça, en fait. Apple a toujours fait ce qu'ils voulaient faire.
Exactement. Apple a besoin de tout maîtriser.
Et tu vois
du processeur, voilà, Microsoft, du processeur, bien sûr, à la moindre icône.
Tout à fait.
Et quand tu as Thierry Breton, je symbolise évidemment.
Non, mais bien sûr, la Commission européenne.
Et quand tu as la Commission européenne qui a dit, en fait, je vais mettre mon nez, tu vas ouvrir le capot et je vais mettre mon nez dans le fonctionnement de tes produits, ça pour Apple, pour un Microsoft, à la limite, bon.
Oui, parce que Microsoft, justement, ils ont déjà
l'habitude, on va dire.
Oui, et puis
ils voient les choses différemment.
C'est aussi une culture d'entreprise.
Mais c'est aussi une histoire.
La culture d'entreprise d'Apple, c'est vous n'ouvrez pas. Et là, ça peut que mal se passer pour le moment.
Vous n'ouvrez pas et surtout, vous nous embêtez pas. Surtout.
Oui,
je pense qu'ils ont. C'est aussi ça, le fait qu'il y ait un régulateur qui commence à s'intéresser à ça, ça doit les titiller un peu.
Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause. Il est déjà 20h30. Ça va vite. On a beaucoup de choses à dire sur le DMA. On va y revenir dans un instant. Et puis, on va aussi s'intéresser à d'autres sujets d'actualité intéressants. Puisque, vous le savez, il y a cette nouvelle proposition de loi aux USA pour forcer la vente de TikTok. Ça aussi, c'est quand même un truc énorme. TikTok pourrait fermer dans 6 mois.
Aux États-Unis, juste.
Aux États-Unis. 170 millions de comptes. On va en parler dans quelques instants. Spotify aussi, qui va augmenter ses prix seulement en France en raison d'une nouvelle taxe. Seulement en France. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et Spotify aussi est remonté contre la France à ce sujet. Bref, il y a plein de trucs hyper intéressants. Vous restez avec nous. Le débrief de l'ActuTech, juste après l'info éco. On est de retour. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir pour commenter l'actu, Jérôme Colombin, journaliste, créateur du podcast Monde Numérique, que vous retrouverez pour le tout nouveau numéro Tout Beau Tout Chaud, samedi matin, comme d'habitude. À tes côtés, c'est Raphaël Grabli, qui est rédacteur en chef adjoint de la plateforme Tech & Co. Et puis donc, Jérôme Marin, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Messieurs, on part aux USA et on s'intéresse à TikTok. TikTok qui, encore une fois, est malmené. Alors, je pense qu'ils ont l'habitude, ils doivent avoir des protections dans tous les sens là-bas, parce que c'est vrai que cette menace qui plane sur TikTok, elle n'est pas nouvelle, ça fait des années. Depuis 4 ans, à l'époque de Donald Trump, bien évidemment, qui voulait déjà à l'époque couper TikTok aux États-Unis. Et bien voilà, cette histoire revient sur le devant de la scène avec des élus américains, une vingtaine, qui, à la fois des démocrates et des républicains aussi, c'est ça qui est assez intéressant, qui soumettent un projet de loi comme quoi TikTok devrait fermer aux États-Unis ou alors changer d'actionnaire. Parce qu'aujourd'hui, TikTok appartient à ByteDance, c'est ça,
Oui, mais juste pour être précis, c'est pas fermé, en fait. Le projet de loi dit TikTok ne pourra plus être distribué sur les applications, sur les boutiques d'applications. Mmh. Donc TikTok peut toujours exister, si tu l'as sur ton téléphone, tu peux toujours l'utiliser.
Ah d'accord.
Mais il ne pourra plus être téléchargé, ce qui revient un peu au même.
Oui, mais
c'est important.
Si tu as préinstallé TikTok, ça marchera toujours.
C'est important parce qu'en fait, quand Donald Trump a essayé d'interdire TikTok, la justice américaine a dit « Non, liberté d'expression, vous ne pouvez pas interdire une application. » Voilà, donc on n'interdit pas l'application.
On peut empêcher de la télécharger en revanche.
Mais ça, on ne sait pas. Après, ça sera à la justice de se décider ou pas. Mais en tout cas, la justice américaine a dit que ce n'est pas possible d'interdire l'application.
C'est écrit un peu différemment, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est
pour contourner en fait ce problème-là.
C'est embêtant parce que Joe Biden venait de se lancer sur TikTok en plus.
Je plaisante pas.
Vous avez vu, il avait fait son premier TikTok.
Oui, et puis comme pendant la campagne européenne, tous les candidats aux européennes, ils communiquent sur TikTok. Et pas que les candidats, d'ailleurs, les autorités européennes communiquent sur TikTok, alors que TikTok est interdit dans l'enceinte du Parlement européen. Donc c'est toujours un paradoxe.
T'as raison, c'est le paradoxe. En fait, je pense que la volonté de ces parlementaires et de Joe Biden aussi, la Maison-Blanche, qui a apporté son soutien à ce texte, c'est de se montrer dur face à la Chine. On dit la Chine, c'est une menace.
Mais excuse-moi, mais pourquoi Joe Biden va sur TikTok
à parce qu'il faut toucher un électorat jeune. Donc on...
mais après, c'est pour ça. C'est... Mais c'est pas cohérent.
Non, mais bien sûr, c'est pas cohérent. Mais en fait, c'est juste...
C'est pas cohérent. Tu peux pas créer un compte Joe Biden.
Après, c'est pas lui qui fait le projet de loi.
Oui, mais il soutient.
Non, mais il le soutient, c'est ce que disait Jérôme, tu vois.
En fait, je pense qu'il y a...
Les gens le voient... Enfin, je veux dire, à un moment, tu fais de la politique, il y a une campagne, tu es obligé de parler aux jeunes. Oui. Il n'y a pas le choix, c'est indispensable.
Mais tu parles aux jeunes sur une application que tu veux pas fermer, mais en tous les cas, museler.
Non, ils veulent... Enfin... En fait, la vraie position, c'est qu'ils veulent forcer la vente. Ce que voulait faire Donald Trump, ce que veut faire Joe Biden, ce que veulent faire les républicains et les démocrates. Ils veulent forcer une vente à un acteur américain parce que TikTok, c'est une maison de mère chinoise, et donc ils ont peur, il y a plusieurs craintes sur ça. Donc, la fête... Officiellement, ils ne veulent pas fermer TikTok, ils veulent forcer la vente. Et de toute façon, TikTok ne fermera pas. Il y aura forcément une vente parce que TikTok ne va pas fermer. Ils vont capitaliser sur leurs 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Donc...
Oui, mais est-ce que Biden, c'est vendeur? Ils n'ont pas de choix.
Ah non, mais ils n'ont pas le choix, là.
Oui, ils n'ont pas le choix.
Mais c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans.
Oui, alors, il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, pardon. C'est exactement ce qui s'est
passé. Il y avait un accord avec Oracle qui a capoté parce que la justice américaine.
Il y avait Microsoft aussi dans le coup, non, à un moment.
Microsoft a été intéressé et ils ne sont pas y aller, en fait. Parce que là, il y avait des problèmes de concurrence.
Ouais. Évident.
Voilà. Mais, et en fait, ça ne s'est pas fait avec Oracle parce que la justice américaine a mis son veto en disant c'est pas possible, en fait. Et après, Biden a été élu, il y a eu une accalmie. Mais là, les élections arrivent en novembre et donc il y a vraiment cette volonté de se montrer dur avec la Chine. Et on le voit avec Nvidia, avec les puces de l'IA où on augmente les restrictions pour. Voilà. Et donc, c'est une posture politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, jour pour jour quasiment, il y avait une proposition de loi aussi qui avait été présentée et elle a échoué. Et tout le monde était d'accord. La Maison-Blanche était d'accord, les républicains étaient d'accord, les démocrates étaient d'accord. Mais quand il faut voter, il n'y a personne qui vote, en fait.
Donc, voilà, et donc, c'est...
T'as pas envie d'être l'élu qui a fermé TikTok. Et là, quand tu parles à la
Et ces élus disent, nous implorons Biden de vendre TikTok afin que les utilisateurs américains continuent de profiter de l'application. Voilà. Donc, on essaie de ménager
la chèvre. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie de TikTok. Parce qu'à chaque fois, et comme il y a un an, qu'est-ce qu'ils ont fait TikTok ? Ils ont pris des... Alors, je rappelle quand même les accusations. Hein. C'est un, espionnage, deux, ingérence. OK ? Donc, ingérence de la Chine. Qu'est-ce qu'ils font il y a un an ? Ils prennent des influenceurs TikTok, ils les envoient au Capitole pour faire monter une tendance, ne supprime, keep TikTok, c'était maintenez TikTok. Voilà. Et là, ils l'ont fait là, il y a quelques heures, pour ce nouveau projet de loi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient une notification aux 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok.
Donc ça veut dire un Américain sur deux à peu près.
Voilà, qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a un projet de loi, c'est contre votre liberté d'expression. Mettez votre code postal. Une fois que vous avez mis votre code postal, on vous montre le nom de votre élu local et vous pouvez l'appeler depuis TikTok pour faire pression sur lui. C'est-à-dire que tu as une application qui est accusée d'ingérence
dans
la politique américaine et aux États-Unis et qui pour se défendre veut influer un vote. Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Non mais je suis désolé, mais on peut pas faire pire avocat pour soi-même. Et ils le font. Donc, a priori, ils sont pas plus bêtes que moi. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils jugent que la jeunesse américaine
est assez puissante pour pouvoir faire renverser.
Ils sont suffisamment puissants parce que la défense, elle est hallucinante. On est accusé d'ingérence et on demande à tous ces utilisateurs de faire pression sur les élus américains. Donc, c'est la démonstration la plus élémentaire d'ingérence quand on appartient à une entreprise chinoise, c'est qu'on dépend du Parti communiste chinois. Et malgré ça, ils sont suffisamment forts pour le faire parce qu'ils savent que les jeunes suivront.
Jérôme, puisque toi, tu es vraiment au fait de tout ça, c'est un projet de loi. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est acté.
Un projet de loi à la Chambre des représentants, donc il va passer en commission. Après, il faut qu'il soit accepté à la Chambre des commissions, il faut qu'il soit voté. Pour l'instant, les projets de loi n'ont jamais dépassé ce stade en fait, de projet de loi.
D'accord.
Ils n'ont jamais été proposés parce qu'aux États-Unis, le vote, tout le monde sait qui vote quoi, en fait. Donc c'est public. Je sais que le représentant du Montana, il a voté contre TikTok. Eh bien, il y a les élections en novembre. Est-ce que je veux voter contre TikTok en disant que TikTok va mobiliser les jeunes pour me mettre dehors Donc en fait, je pense qu'il y a la posture très politique de dire il faut être contre TikTok. Mm-hmm. Et après, il y a la réalité du terrain où il faut voter. Et pour l'instant, on n'est pas passé cette étape. Est-ce qu'on la passera avant novembre ? Moi, j'y crois pas du tout, très honnêtement. Est-ce que
Donc le TikTok ne sera pas embêté, ne sera pas obligé de se vendre aux Américains et ça restera toujours chinois ?
Ben, pour l'instant, en tout cas, oui. Après, TikTok vous dire qu'ils sont pas chinois parce que c'est une filiale de Biden qui est basée à Singapour, donc il y a toujours ce côté-là. Mais juste sur l'ingérence, en fait, et en plus, c'est vrai qu'ils se donnent pas forcément, ils donnent un peu des arguments pour les autres, mais en fait, l'an dernier, ils ont reconnu qu'il y avait un algorithme qui permettait de mettre en avant des contenus, des vidéos. Alors, eux, ils disent que c'est pour les marques, pour les influenceurs qui veulent mettre en avant. Mmh. Et en fait, la crainte, c'est que la Chine peut dire, tiens, il y a l'élection, je vais mettre en avant tel sujet. Et comme sur TikTok, c'est du feed, c'est algorithmique, c'est pas je suis mes amis, permis. Donc, on peut.
C'est l'algorithme total, TikTok. C'est la seule appli où c'est de l'algorithme total. Twitter, il y a l'algorithme, enfin, il y a vraiment un affichage chronologique. Instagram, il y a à peu près quand même un mélange.
Bien sûr, les deux.
Hein. Même si c'est un peu à peu près équilibré, TikTok, c'est l'algorithme total. Et entre, il faut préciser aussi, entre Trump 2020 et Biden 2024, il y a eu quand même pas mal d'éléments. Il y a eu le patron du FBI, c'était en novembre 2022, qui s'exprimait en disant TikTok, c'est une catastrophe pour l'ingérence, pour l'espionnage. Mmh. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que TikTok a espionné des journalistes. Des journalistes britanniques.
Et comme par hasard, il a été interdit aussi en Europe. Enfin, en tout cas, par les parlementaires européens. Par les membres du gouvernement, voilà. Il y a quelques mois.
Oui, c'est ça. Mais
de manière.
Voilà.
Enfin, en tout cas, sur leur téléphone officiel, parce que
encore.
Téléphone perso. Enfin,
juste une précision, en fait, il y a un projet TikTok, ce que veut faire TikTok aux États-Unis, donc ils ne veulent pas se vendre, ils veulent ce qu'ils ont, donc un projet qui s'appelle Projet Texas, qui est d'héberger toutes les données américaines dans un cloud d'Oracle. Ouais. En Europe, il y a un projet qui s'appelle Projet Clover, qui est d'héberger les données en Irlande. Et ce projet, il est en négociation, ça fait 2-3 ans qu'il est en négociation avec le comité. Des investissements étrangers qui a un comité très puissant aux États-Unis. Il y a un accord qui avait été trouvé en 2022 et en fait il a capoté parce que le FBI, parce que le département de la justice ont dit c'est pas possible, c'est trop dangereux en fait. Et ces autorités là, c'est de dire on peut pas faire confiance en fait. Toutes les protections qu'on pourra mettre, elles seront jamais suffisantes parce qu'il y aura toujours
un moyen. C'est pas parce que tu mets tes serveurs au Texas
qu'il y aura pas un moyen d'avoir une backdoor.
On va pas avoir un backdoor qui amène tout en Chine en fait.
Et même pas un backdoor d'ailleurs. Je veux dire, avant d'être en Chine, la donnée elle transite vers un serveur américain. Donc c'est pas parce que tu mets un serveur à l'autre bout du monde. Enfin, c'est le concept d'Internet quand même, donc c'est pas pour ça que ta donnée ne va pas aller en Chine. Et d'ailleurs, TikTok a souvent refusé de s'engager, y compris en Europe, parce que les données hébergées en Europe, quand on leur demandait, mais ok, elles sont hébergées en Europe, est-ce qu'elles restent en Europe ? En général, c'était plus compliqué d'avoir des réponses.
Et... parce qu'eux, ils disent qu'elles vont en Chine pour des raisons, pour améliorer le produit, pour des choses comme ça. Après, c'est la discussion.
Dans les mêmes bureaux où il y a le Parti communiste chinois.
TikTok, ton point de vue. Alors, Jérôme, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse.
Non, j'avoue que j'ai
vu ça.
Ça très loin. J'ai l'impression que finalement, notre problème de DMA, c'est de la gnognon.
Non, mais c'est vrai.
C'est de ce problème pour les Américains. Parce que dès qu'on parle d'ingérence, en plus, ils ont de la chance. TikTok n'est pas russe, mais. Sinon, le problème aurait pris aussi une autre dimension.
Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de champion à sauver. Je pense que le jour où TikTok est interdit aux États-Unis, interdit ou vendu, j'en sais rien, mais disons que ça commence à chauffer pour eux. Bon, l'action Meta, je pense qu'elle va prendre quelques pourcents. Enfin, les Américains, ils ont des champions et ils ont une puissance par rapport à la Chine qui est un peu différente. Nous, en Europe, si on veut interdire TikTok, on peut interdire TikTok. Après, vendre tes bouteilles de Bordeaux en Chine derrière, ça va être plus compliqué.
Ça va être plus compliqué.
Bon, les Américains aussi. Hein,
Les sacs de luxe.
Ou les sacs de luxe, voilà.
Ce qui peut être intéressant, et forcément, c'est la question qui nous vient après, qui pourrait acheter TikTok aux États-Unis ?
Mais ça, personne, en fait. C'est ça le problème.
C'est ça, personne.
C'est que ça coûte très cher. TikTok, c'est valorisé 180 milliards de dollars.
Waouh.
Donc après c'est TikTok America, mais TikTok America c'est peut-être le maximum, c'est peut-être 100 milliards, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui on va pas avoir Meta à racheter TikTok.
Oui, c'est ça, tu peux pas avoir Meta de fait.
Donc le plan qu'on avait avec Oracle en fait, c'est que c'était distribué aux actionnaires actuels. Enfin, c'était un truc assez complexe, mais l'entreprise qui a les moyens d'acheter TikTok, mais il y a forcément des problèmes de concurrence en fait derrière.
Ouais, et puis Elon Musk, à mon avis, jettera l'éponge.
Il est déjà pris.
Il est déjà pris avec X, donc il va pas se racheter TikTok. Quoique, oui. Bon, voilà, en tout cas, on va suivre ça de près, comme tu le disais, même si les probabilités que tout ça arrive sont quand même assez ténues. Hein. Dans l'actualité, on revient en France avec, encore une fois, des tensions entre Spotify, qui est l'appli de musique de streaming numéro 1, hein, alors en France, mais un peu partout dans le monde, et Spotify qui peste contre la France et qui le dit haut et fort depuis quelques semaines, avec des menaces qui sont franches. Il faut savoir que Spotify n'est pas content et Spotify l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux par la voix de son directeur général Antoine Monin, va augmenter ses prix. Je vous propose d'écouter un petit extrait justement de son intervention sur les réseaux sociaux et juste après on revient, c'est donc le directeur général de Spotify France qui parle.
En 2022, Spotify a reversé près de 225 millions d'euros à l'industrie musicale en France, ce qui représente près d'un quart des revenus du secteur. Alors on veut bien contribuer, mais on le fait déjà, et beaucoup. Et ce qui nous dérange, c'est qu'on vient encore taxer les plateformes. On a tout fait pour essayer d'éviter cette taxe et d'en arriver là. On a fait beaucoup de propositions au gouvernement français, et on avait même trouvé une solution avec une contribution volontaire. Mais nous, on ne peut pas absorber le coût de cette mesure. Nous sommes une entreprise indépendante, européenne, et nous n'avons juste pas les moyens de payer cette nouvelle taxe sans la répercuter d'une manière ou d'une autre. Alors, hélas, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, on va être obligé d'augmenter nos prix en France dans les semaines qui viennent.
Voilà, donc c'est très intéressant. Alors il faudrait écouter toute la vidéo parce qu'elle est beaucoup plus longue. En fait, Léa, notre productrice, a pris ce bout qui est quand même assez, cet extrait qui est quand même assez évocateur. Mais en fait, Spotify dit que les conséquences en fait de cette taxe en France va avoir, ça va faire un peu, c'est un peu la théorie des dominos, parce qu'il faut savoir que au-delà des 225 millions qu'il reverse en fait aux ayants droit, Spotify donne beaucoup d'argent à des concerts, à des festivals, des choses comme ça. Ils ont dit tout ça, on va arrêter, oui. On va arrêter la tube. Donc en fait, ils vont assécher plein de on va dire de concerts, enfin des choses comme ça, simplement pour dire bah écoutez, on paye cette taxe, on n'est pas d'accord, la France est la seule à nous faire payer cette taxe supplémentaire, on augmente le prix en France.
On a un peu envie de se dire, il faudrait peut-être pas trop charger la mule quand même, hein, parce que alors, on n'est pas dans les comptes de Spotify, on ne sait pas effectivement.
Enfin, quand on regarde les comptes de Spotify,
ce qui est vrai, mais
ça gagne pas d'argent Spotify, hein. Ça ne gagne pas d'argent.
Voilà, et là, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'on peut plus, quoi. Ils peuvent
au niveau
plus,
mondial,
ils peuvent plus. Alors c'est vrai que bon, peut-être qu'on le paye moins cher que dans les autres pays, non Spotify, il me semble.
Non, c'est la même chose,
c'est la même chose partout.
C'est 10,99 non aujourd'hui.
Ils ont augmenté d'un euro.
Ouais, ils ont augmenté, ils sont passés
dernier
des 10.
Et après, la question, c'est où va cet argent? C'est donc, il va au Centre National de la Musique?
C'est ça.
C'est ça, hein. Moi, je suis allé faire un tour sur le site du CNM cet après-midi. Alors, c'est intéressant pour savoir exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas de redistribution directe aux artistes ou autres, hein, puisque ça, Spotify, il y a d'autres circuits pour rémunérer les artistes. Mais le Centre de la Musique, ouais, ils font des choses intéressantes. Donc, ils font de la formation avec les collectivités locales. Il y a aussi une verticale et une dimension environnement. Il y a une dimension, parité homme-femme, etc. Voilà, super. Mais est-ce que tout cela justifie de faire payer le consommateur, finalement, pour sur la musique qu'il écoute en streaming? Je sais pas.
Après, la taxe, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est 1,2% en fait. Donc si on rapporte 1,2% au prix de l'abonnement, ça fait 10 centimes de plus par mois pour le consommateur. Donc c'est pas non plus énorme. Ce que j'entends...
Mais d'après ce que j'ai compris, enfin, avec les taxes, ça fait un effet qui est beaucoup plus...
Enfin, mais moi, je comprends le discours
que ça faille.
Mais je trouve qu'il est un peu... comment dire? Spotify vient d'augmenter les prix. Ce patron, Daniel Ek, a dit qu'ils allaient en continuer d'augmenter les prix. Donc, voilà, c'est un peu...
Tu veux dire qu'ils se servent de ce prétexte-là pour augmenter?
Non, je pense que là, c'est vraiment... voilà, on va répercuter. Voilà, on est pour vraiment montrer leur côté, leur désapprobation, le fait qu'ils sponsorisent plus des festivals et des choses comme ça. J'attends de voir pour voir si c'est vraiment vrai ou pas.
Ils ont donné des exemples concrets, hein.
Ouais, bah après, peut-être qu'au départ, on verra si dans un an ou deux, ils continueront à plus le faire. Ouais. Mais je trouve qu'on va dire, oui, voilà, on va nous taxer de 10, 15 centimes ou 20 centimes sur l'abonnement. Quand on a déjà augmenté l'abonnement et qu'on a déjà prédit qu'on allait continuer d'augmenter l'abonnement, bah, je trouve que les deux discours sont un peu. Les deux discours à côté sont un peu bizarres, en fait.
Raphaël ?
Bah, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait les autres ? Parce que cette...
Oui, c'est vrai, il n'y a pas que Spotify dans la vie.
Oui, ça concerne tout le monde.
Il y a Cobuzz qui était avec nous sur notre plateau cette semaine.
Il y a Apple Music. Et moi, je commence...
Il y a Amazon Music.
Oui, il y a Amazon. Okay, hein. Mais moi, je commence à me demander si au bout d'un moment, et tu le dis, c'est pas rentable. Donc, est-ce que le service de streaming comme ça, c'est quoi le vrai prix? C'est quoi le vrai prix de ce service de streaming qu'on paye? Cet accès qu'on a qui est identique, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Bon, Orminko Bus qui est un peu spécifique, combien ça coûte? C'est quoi le vrai prix de tout ça? Parce que on voit, enfin moi je suis désolé, hein, 10 euros par mois, 11 euros par mois, par rapport au streaming vidéo où on paye beaucoup plus cher pour des contenus qu'on n'utilise pas forcément. Quand on voit, enfin 11 euros par mois, je trouve que c'est pas cher par rapport à ce qu'on avait acheté des CD, etc. Je veux dire, d'avoir toute la musique. C'est-à-dire, on n'a pas en vidéo, on n'a pas d'équivalent. On n'a pas tous les films. On a des bouts de catalogue avec des bouts de séries pour lesquels il faut payer assez cher. Et à la fin, on arrive à 50-60 euros par mois. La musique, c'est pas pareil. On a tout. On a tout. Je veux dire, quasiment. C'est rare de pas trouver quelque chose quand même sur Spotify ou sur Deezer, etc. Et donc pour moi, c'est la question de la musique. C'est combien ça vaut la musique par mois? Parce que Spotify, Deezer, Apple Music, c'est la musique.
Mais après, c'est un délicat équilibre entre, on va dire, un prix psychologiquement acceptable par les consommateurs, oui, et l'extinction du piratage. Parce que rappelons quand même que Spotify a pas tué le piratage, mais en tous les cas, il lui a mis un sacré coup derrière la nuque.
C'est là où le piratage, déjà sur du smartphone...
C'est plus difficile et je pense que l'habitude du streaming légal.
Moi, sur Android,
légal,
c'est pas très compliqué, non, les amis. Je veux pas rentrer dans les détails.
C'est plus difficile de télécharger une application, voilà, et de créer un compte.
Non, ouais. Mais il y a 20 ans, quand on était tous sur un ordinateur, bon, la tentation entre acheter le CD et le mettre dans son lecteur pour en profiter. Et aller sur Emule ou sur Kaza ou je sais pas où, bon, tu te dis, en termes de manipulation, c'était
on
pareil.
On chopait plein de virus et tout, ouais, c'était très sympa.
Exactement. Non, là, j'y crois pas, mais, enfin, j'y crois moins en tout cas, et moins massivement en tout cas. Ouais. Mais non, la question que je me pose, c'est quoi le prix? C'est quoi le vrai prix? Et c'est là où je me dis que finalement, être un pure player, ça risque de devenir peut-être un désavantage. Et c'est là où je me dis qu'Apple Music va avoir un vrai avantage, c'est-à-dire qu'Apple n'a pas besoin qu'Apple Music soit rentable. Ils peuvent être à peu près flat.
Ils s'en foutent. Eux, c'est juste. Alors, c'est un service supplémentaire qui rentre dans un package de services.
Même s'ils ont besoin maintenant.
Comme Amazon.
Ils ont besoin vraiment que
comme Amazon.
Soit, voilà, exactement. Mais Apple Music, pour moi, peut avoir un avantage là-dessus. Avec
ou Google,
une
d'ailleurs, parce que Google, ils ont YouTube Music.
YouTube Music est la quatrième plateforme.
Ils cartonnent, d'ailleurs. Et il y a plein de gens qui sont prêts à payer.
Qui est super bien.
D'ailleurs. Au moins 10 euros pour ne plus avoir de publicité.
Mais moi, je trouve
allez-y,
que
c'est plein de podcasts.
Mais quand tu dis charger la marque. Oui, mais quand tu dis charger la marque. Oui, moi je trouve que Netflix, enfin toutes les plateformes, Prime Video, Disney, là on charge la barre. Parce que franchement, on a 3-4 séries et des films, des vieux films. Où,
au niveau tarif, tu veux dire?
Oui, au niveau tarif, je suis désolé, moi la musique, 11 euros par mois, toute la musique, 11 euros par mois.
Ouais, mais il y a des tas d'offres, discount pour les étudiants,
et
etc.
Et en plus, bien sûr.
Ouais, tu rajoutes 3 euros, tu as 6 comptes, enfin. Voilà.
Et je comparerais pas ça à la vidéo, en tout cas, parce qu'on n'est pas sur le même produit.
Juste deux éléments pour te répondre, Raphaël. Déjà, on était à 11 euros, donc, mais avant, on était à 10 euros, et pendant des années, ça a jamais augmenté, en fait. Spotify s'est lancé à 10 euros, ils sont restés à 10 euros pendant des années.
Ouais, c'était
9,99. Quand on compare à Netflix, Netflix a commencé à 10 euros, et ils sont aujourd'hui à, je sais plus, quasiment 20 euros, quasiment. Donc, déjà, il y a ce côté-là où c'est pour ça qu'en fait, ils veulent augmenter les prix, et 10 heures aujourd'hui, il est passé à 12 euros. C'est le premier qui est passé à 12 euros. Donc il y a un effet de rattrapage, ils se disent on peut continuer à augmenter les prix. Et pourquoi les plateformes ne sont pas rentables? Parce que Spotify, le vrai problème de Spotify, c'est qu'ils reversent 70% de leur chiffre d'affaires aux ayants droit, donc aux musiciens, aux compositeurs. Et donc il ne reste que 30%, et avec 30% pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, Spotify a eu un trimestre depuis qu'ils sont rentrés en bourse, un trimestre dans le vert. Sinon tout le reste c'est de les pertes. Donc ils ont cherché, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi dans les podcasts notamment, ou dans les livres audio aujourd'hui, parce qu'ils cherchent des moyens alternatifs pour gagner de l'argent, pour augmenter leur marge. Mais sur le streaming, en fait, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, la marge est beaucoup trop faible pour gagner de l'argent.
Et puis les artistes se gaffent pas forcément, je ne parle pas des très gros, hein, mais je veux dire, il faut y aller pour gagner de l'argent avec du streaming quand on a un
artiste. Pour ça que,
Oui, c'est vrai que les règles de répartition sont étranges.
Elles sont en train de changer aujourd'hui, en fait.
Voilà, mais si Spotify se gavait, on dirait, bon, voilà. Là, Spotify ne se gaffe pas du tout. Les artistes, je parle pas des gros.
Oui, Taylor Swift, à mon avis, elle se gave.
Non, je parle de l'artisanat, quoi, presque. Enfin, des artistes qui vivent de Spotify ou du streaming, mais qui font pas des tournées.
Ouais, mais ce qu'ils vivaient à l'époque du CD, c'est toujours pareil, tu vois.
Il faut quand même dire.
Non, mais il y a un moment, voilà, donc il y a pas un argent.
Il y en a plein qui n'existaient pas à l'époque du CD.
Mais donc il y a un moment, je pense qu'il faut accepter. Peut-être de payer plus cher. En tout cas, moi, cette taxe streaming, alors la répartition, je suis d'accord avec toi, moi, je préférerais que ce soit une vraie taxe qui dise les choses et qui soit peut-être plus importante, mais qui dise c'est aussi pour les ayants droit directement.
Ben voilà.
Et je trouverais ça beaucoup moins hypocrite que la copie privée, qui est justifiée par un usage qui n'existe plus, où là, c'est montant, c'est 300 millions d'euros par an, la copie privée. Et moi, je trouverais ça plus réglo et plus honnête de dire, bon, on arrête la copie privée qui est un scandale, et on fait une taxe, une vraie taxe sur le streaming qui est plus importante, mais qui va vers les ayants droit.
Ouais, cette copie privée, alors quelle fumisterie, vraiment, c'est incroyable, ce truc-là. C'est une taxe d'un autre âge, en fait.
Elle est illégitime depuis le premier jour.
Oui, histoire. Alors déjà, elle était illégitime dès le premier jour, mais elle est aujourd'hui d'un autre âge. Parce que elle est incompréhensible et injustifiable aujourd'hui.
Et d'ailleurs, ils font tout pour éviter de la justifier. Il n'y a pas les enquêtes.
Il nous reste 2 minutes. On évoque cette petite curiosité. Alors, c'est encore une rumeur, mais tu voulais nous en parler, Raphaël. C'est Apple qui préparerait un immense MacBook pliable.
Oui. Et alors.
Waouh! Un truc, voilà, c'est une énorme valise. Oh, j'ouvre mon MacBook, là.
20 pouces.
Mais c'est quoi, ce truc?
Oh, ben, j'en sais rien.
J'en sais rien. Bullshit, quoi.
Non.
Préparerait pour 2027.
Non, c'est pas bullshit, parce que il y a beaucoup de rumeurs bullshit.
Ok, c'est un type bien informé. C'est Lee Chuko
qui est l'analyste le mieux informé sur Apple. Et en fait,
il y a peut-être un mec chez Apple qui s'est dit, tiens, on pourrait faire ça.
Ça arrive. Non, quand ça arrive dans les oreilles de Mick Jucco, c'est que c'est.
C'est qu'ils ont besoin de le faire savoir.
T'es pas sur la ligne de production, mais enfin, t'es pas si loin que ça. Il parle de 2027, si j'y vais.
Ouais, 2027.
C'est demain. Mais ce qu'il dit. Et en fait, alors.
C'est franchement, dans 3 ans, quoi. Tout dépend.
Non, mais le MacBook 20 pouces, c'est moi, je trouve que l'usage est génial.
De voiture, ça.
Parce que t'as besoin maintenant de grand écran. Tu travailles avec un portable. C'est, j'ai envie de dire, c'est l'intermédiaire avant que le Vision Pro soit opérationnel, finalement. Hein.
Oui, c'est ça.
T'es entre le MacBook Air 13 pouces et le Vision
c'est
Pro.
C'est l'informatique un peu spatiale.
Voilà, exactement. Non mais c'est vrai.
Alors ça ressemblera à quoi ce truc?
Avec
un écran qui se déplie, qui se
probablement. Oui.
J'imagine que l'idée c'est d'avoir.
En fait, il se gonfle. Tu sais, tu le jettes par terre.
Non, mais c'est d'avoir avec un 20 pouces avec un encombrement d'un 13 pouces.
Ouais, bah,
sinon, je vois pas l'intérêt. Donc j'imagine que c'est ça. Mais ce qu'il dit aussi.
Ça dit, moi, c'est preneur. Hein.
Non, et ce qu'il dit aussi, c'est le seul appareil.
C'est ça qui est intéressant.
C'est le seul appareil pliant sur lequel Apple travaille vraiment, ou en tout cas, ils ont un planning.
Moi, j'y crois pas, sincèrement.
Donc ça veut dire.
Moi
non plus.
Moi, je suis sûr qu'il y a un iPhone pliant dans les.
Moi, ça, j'ai jamais cru.
Moi, j'y crois. Moi, vraiment, j'y crois.
L'iPad tant que les ventes n'augmentent pas, à mon avis, ils n'iront pas.
Mais ça augmente pas, mais le Vision Pro, il y a personne, ça se vend pas, mais ils lancent ce truc là. Oui, et Apple, dès qu'ils sortiront
Samsung, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le smartphone client.
Mais le Vision Pro, c'est eux qui l'ont inventé. Le smartphone client, c'est pas eux qui l'ont inventé.
Ouais, Samsung, mais ils réinventent des usages. Et moi, je suis persuadé.
C'est là où ils réinventent le client. On les attendait sur l'iPhone, sur l'iPad, et bam, ils arriveront sur le PC.
Alors, on est quoi? On est en 2024. Si en 2026, il y a pas de smartphone client, je vous invite tous au resto.
Chez Apple, alors là, c'est sûr que non.
Non?
Ah, non.
Sûr? Et moi, alors, je suis pas d'accord avec toi.
Je te signale qu'on a eu le même débat sur l'Apple Car il y a quelques années.
Ouais. J'avais dit qu'il allait avoir un Apple Car, c'est ça?
Je me souviens plus. Je me souviens que j'ai dit qu'il n'y en aurait jamais.
Il avait raison jusqu'à la semaine dernière. Voilà.
Tout ça parce que tu veux que je te paye un resto. J'ai bien compris. Ok. Bon, ben en tout cas, c'était top. Merci beaucoup à tous les trois. Et dès que ce MacBook pliant arrive. Évidemment, Raphaël viendra avec.
Hein, avec plaisir.
Merci Jérôme.
Merci à vous.
Jérôme Marin, donc fondateur de la newsletter Café Tech. Autre Jérôme Colombin cette fois-ci. Merci d'être là, d'être venu Jérôme.
Avec plaisir.
Et on te retrouve
samedi pour Monde Numérique.
Monde Numérique, on va parler de quoi samedi?
De l'informatique quantique, et de droit d'auteur par rapport à l'intelligence artificielle. Gros sujet. Hein.
Ouh là, gros sujet. Vrai, avec des applications qui font des chansons maintenant incroyables en quelques secondes. On s'est tous amusés à la rédaction de BFM Business. J'imagine que toi aussi, Raphaël, tu t'es amusé là-dessus.
J'en ai fait quelques dizaines.
T'en as fait quelques dizaines. Je sais.
Sur Spotify. Ouais.
Tu devrais les mettre sur Spotify, oui, t'as raison. C'est vrai, tu pourrais être riche peut-être maintenant. Raphaël Grabli, donc rédacteur en chef adjoint donc de la plateforme Tech & Co. Pour ce débrief qui se termine,